Chapitre 12. Les sociétés communistes et post-communistes. Nous venons d'analyser la chute des sociétés de propriétaires entre 1914 et 1945, puis la façon dont les sociétés social-démocrates, bâties entre 1950 et 1980, étaient entrées en crise à partir des années 1980-1990. En particulier, malgré tous ses succès, la social-démocratie n'a pas su pleinement faire face à la montée des inégalités, faute d'avoir su renouveler et approfondir ses réflexions et son programme d'action sur la propriété, l'éducation, l'impôt et, par-dessus tout, sur le dépassement de l'État-nation et la régulation de l'économie monde. Nous allons maintenant analyser le cas des sociétés communistes et post-communistes, notamment en Russie, en Chine et en Europe de l'Est, et leur place dans l'histoire et le devenir des régimes inégalitaires. Le communisme, en particulier sous sa forme soviétique, a constitué au début du XXe siècle le défi le plus radical jamais lancé à l'idéologie propriétariste. Il s'agit de fait de l'idéologie qui lui est la plus frontalement opposée. Alors que le propriétarisme fait le pari que la protection la plus absolue de la propriété privée conduira à la prospérité et à l'harmonie sociale, le communisme soviétique repose sur sa suppression complète et son remplacement par la propriété étatique intégrale. En pratique, ce défi lancé à l'idéologie de la propriété privée aura finalement surtout conduit à la renforcer. L'échec dramatique de l'expérience communiste en Union soviétique, 1917-1991, est l'un des facteurs qui ont le plus fortement contribué au retour en force du libéralisme économique depuis 1980-1990 et au développement de nouvelles formes de sacralisation de la propriété privée. La Russie, en particulier, est devenue le symbole emblématique de ce retournement. Après avoir longtemps été le pays de l'abolition de la propriété privée, elle est devenue le leader mondial des nouveaux oligarques et de la richesse offshore, c'est-à-dire dissimulée dans des structures opaques au sein des paradis fiscaux. Plus généralement, le post-communisme, dans ses variantes russes, chinoises et est-européennes, est devenu en ce début de XXIe siècle le meilleur allié de l'hypercapitalisme. Il porte également en lui une forme de désillusion face à toute possibilité d'une économie juste qui nourrit les replis identitaires. Nous allons commencer par analyser le cas russe et soviétique, et en particulier les raisons de cet échec et de l'incapacité du pouvoir communiste à concevoir d'autres formes d'organisation économique et sociale que la propriété étatique hyper-centralisée. Nous étudierons également l'ampleur de la dérive kleptocratique du régime russe depuis la fin du communisme et sa place dans le phénomène plus général de montée en puissance des paradis fiscaux au niveau international. Nous analyserons ensuite le cas de la Chine, qui a su tirer parti des échecs soviétiques et occidentaux pour bâtir une forme d'économie mixte performante dans un contexte de rattrapage post-maoïste. Le régime chinois pose par ailleurs des questions fondamentales aux démocraties électorales et parlementaires occidentales. Les réponses qu'il propose reposent toutefois sur une opacité et un centralisme qui paraissent peu adaptés à une régulation efficace des inégalités produites par la propriété privée. Enfin, nous examinerons le cas des sociétés post-communistes d'Europe de l'Est, leur place dans la transformation du régime inégalitaire européen et mondial, et la façon dont elles mettent en lumière les ambiguïtés et les limites du système économique et politique actuellement en place dans l'Union européenne. Peut-on prendre le pouvoir sans une théorie de la propriété? S'intéresser aujourd'hui à l'expérience communiste soviétique, 1917-1991, c'est d'abord tenter de comprendre les raisons d'un échec dramatique qui handicape encore lourdement toute tentative de penser un nouveau dépassement du capitalisme et qui constitue l'un des principaux facteurs politico-idéologiques expliquant la montée mondiale des inégalités depuis les années 1980-1990. Les raisons de cet échec sont multiples, mais la première est évidente. Quand les bolcheviks prennent le pouvoir en 1917, leurs plans d'action sont loin d'être aussi scientifiques qu'ils ne le prétendent. Il est clair que la propriété privée sera abolie, au moins pour ce qui concerne les grands moyens industriels de production, qui sont d'ailleurs peu nombreux en Russie. Mais comment seront organisés les nouveaux rapports de production et de propriété? Que fera-t-on exactement des petites unités de production et du secteur du commerce, du transport ou de l'agriculture? Par quel mécanisme les décisions seront-elles prises et les richesses réparties au sein du gigantesque appareil d'État et de planification? Faute de réponse claire, on se replia très vite sur l'hyper-personnalisation du pouvoir. Et, faute de résultats à la mesure des espoirs, il fallut trouver des raisons et des boucs émissaires, c'est-à-dire en substance des idéologies de la trahison et du complot capitaliste. C'est ainsi que le régime s'enferma dans des cycles interminables d'emprisonnement et de purge dont il n'est jamais totalement sorti jusqu'à sa chute. Il est facile d'annoncer l'abolition de la propriété privée et du régime électoral bourgeois. Le problème est qu'il est plus complexe, mais aussi plus intéressant, de décrire précisément une organisation alternative. La tâche n'est pas impossible, mais elle demande d'accepter la délibération, la décentralisation, les compromis et les expérimentations. Il ne s'agit pas ici d'accabler Marx ou Lénine, mais simplement de constater que ni eux ni personne n'avaient proposé avant la prise de pouvoir de 1917 de solutions précises à ces questions essentielles. Marx avait certes prévenu dès 1850 dans « Les luttes de classe en France » que la transition vers le communisme et la société sans classe nécessiterait une phase de dictature du prolétariat, au cours de laquelle il serait nécessaire de placer tous les instruments de production entre les mains de l'État. Le terme « dictature » n'était guère rassurant, mais en réalité, cela ne réglait en rien la question de l'organisation de l'État, et il est bien difficile de savoir ce que Marx aurait conseillé de faire s'il avait vécu assez longtemps pour voir la révolution de 1917 et ses suites. Quant à Lénine, on sait qu'il favorisait peu avant sa mort en 1924 une longue phase au cours de laquelle la NEP, Nouvelle Politique Économique, s'appuierait sur des formes régulées et encore mal définies de marché et de propriété privée. La nouvelle direction conduite par Staline se méfiait de ces complexités qui risquaient de ralentir l'industrialisation du pays et décida dès 1928 de mettre fin à la NEP et de se lancer dans la collectivisation de l'agriculture et l'étatisation complète de toutes les formes de production et de possession. L'absurdité du régime s'exprima alors très clairement dès la fin des années 1920, dans la façon dont le pouvoir se mit à criminaliser toute une population de petits travailleurs indépendants qui ne rentraient pas dans le cadre du nouveau régime, mais qui n'en étaient pas moins indispensables au fonctionnement de la vie urbaine et de l'économie soviétique dans son ensemble. En particulier, la mesure de privation des droits civiques, qui conduisait à écarter les populations indésirables des listes électorales, et surtout du système de rationnement, ce qui était autrement plus grave pour la survie des familles concernées, concernait non seulement les membres des anciennes classes militaires et cléricales du régime tsariste, mais également et surtout toutes les personnes tirant leurs revenus du commerce privé ou d'une fonction d'intermédiaire, ainsi que celles ayant engagé un salarié en vue d'un profit. En 1928-1929, ce sont ainsi quelque 7% de la population urbaine et 4% de la population rurale qui furent inscrites sur les listes de licenci. En pratique, c'est toute une population de petits transporteurs en carriole, de vendeurs ambulants de nourriture, d'artisans et de réparateurs de toutes sortes qui se retrouvent avisés. Dans leur dossier de demande de réhabilitation, au fil de procédures bureaucratiques interminables, ils décrivent leur vie de petits, possédant tout juste un cheval à une échoppe, disent leur incompréhension face à un régime dont ils se sentaient proches et implorent le pardon. L'absurdité de la situation tient évidemment au fait que l'on ne peut pas organiser une ville et une société uniquement avec des prolétaires patentés, ouvriers dans la grande industrie. Il faut avant tout se nourrir, se vêtir, se transporter, se loger, et ces fonctions demandent toute une population de travailleurs dans des unités de production de taille variable, et parfois de toute petite taille, qui ne peuvent être organisées qu'en s'appuyant sur un minimum de décentralisation et sur les aspirations et les informations de chacun, et le cas échéant sur un petit capital privé et quelques salariés. La Constitution soviétique de 1936 édictée à un moment où l'on considère que ces pratiques déviantes ont été définitivement éradiquées, institue aux côtés de la propriété socialiste, c'est-à-dire la propriété d'État, qui comprend aussi celle des fermes collectives et des coopératives, étroitement contrôlées par l'État, la possibilité de la propriété personnelle. Mais cette dernière concerne uniquement des biens et des objets personnels acquis grâce aux revenus de son travail, par opposition à la propriété privée, qui se fonde sur la propriété des moyens de production et donc sur l'exploitation du travail d'autrui, et qui est totalement bannie, aussi petite l'unité de production soit-elle. Des marges de manœuvre seront certes négociées en permanence, pour permettre par exemple aux travailleurs des fermes collectives d'écouler une petite partie de leur production sur les marchés kolkhoziens ou aux brigades de pêcheurs de la mer Caspienne de vendre pour leur compte une partie de leurs poissons. Le problème est que le régime passera son temps à remettre ces règles en cause et à en renégocier les contours, à la fois du fait de son dogmatisme idéologique et de sa méfiance pour ses pratiques subversives, et aussi parce qu'il a besoin de boucs émissaires et de saboteurs pour justifier ses échecs et les frustrations de la population. À la mort de Staline, en 1953, plus de 5% de la population adulte soviétique est en prison, dont plus de la moitié pour des vols de propriété socialiste et autres petits larcins permettant d'améliorer l'ordinaire. C'est la société des voleurs, décrite par Juliette Cadieux, et elle signe le dramatique échec d'un régime qui se voulait émancipateur. Pour atteindre un niveau d'enfermement comparable, il faut considérer le cas de la population masculine noire américaine aujourd'hui, environ 5% des hommes adultes en prison. Si l'on prend les États-Unis dans leur ensemble, c'est environ 1% de la population adulte états-unienne qui est derrière les barreaux en 2018. Ce qui suffit certes à placer le pays en position de leader mondial incontesté en la matière en ce début de 21e siècle. Que l'Union soviétique ait pu atteindre dans les années 1950 un niveau d'enfermement 5 fois plus élevé en dit long sur l'ampleur du désastre humain et politique. Il est particulièrement frappant de constater qu'il s'agit non seulement de dissidents et de prisonniers politiques, mais également et majoritairement de détenus économiques, accusés de vol de la propriété d'État, alors même que cette dernière était supposée permettre la réalisation de la justice sociale sur Terre. On retrouve dans ces prisons toute une foule de petits chapardeurs affamés des usines et des champs, de voleurs de poules ou de poissons dans les régions du Sud, de chefs d'entreprises d'État accusés de corruption et de malversation, souvent à tort. Ils furent les cibles de la direction soviétique et de sa volonté de faire du voleur de la propriété socialiste un ennemi du peuple passible de 5 à 25 années de camp pour des vols souvent mineurs et de la peine capitale pour les cas les plus graves. Les dossiers issus des interrogatoires et des procès permettent d'entendre la parole et les justifications des voleurs qui n'hésitent pas à remettre en cause la légitimité politique d'un régime qui n'a pas su tenir sa promesse d'amélioration des conditions de vie. Il est intéressant de noter que la Seconde Guerre mondiale a conduit paradoxalement le régime soviétique à adopter une conception un peu plus ouverte de la propriété privée, au moins en apparence. Cela est lié au fait que les demandes russes d'indemnisation et de compensation formulées dans l'après-guerre, à la suite des exactions et des pillages commis par les nazis dans les territoires occupés de 1941 à 1944, se situe dans le contexte du droit international de l'époque, qui indemnise plus généreusement les pertes privées que les dommages publics. Les commissions soviétiques se mettent alors à enregistrer méthodiquement des témoignages sur des pertes de propriété privée, y compris certaines sur des pertes de petits moyens de production, qui étaient réputés avoir disparu depuis la Constitution de 1936. En pratique, cependant, il s'agit surtout d'une stratégie argumentative déployée par le régime sur le front diplomatique et juridique, le plus souvent sans conséquences directes en termes de restitution effective aux personnes concernées. De la survie du marxisme-léninisme au pouvoir. Compte tenu de ce triste bilan, on peut naturellement se demander comment le régime soviétique a pu survivre si longtemps. Outre sa capacité répressive, il faut également prendre en compte, comme pour tous les régimes inégalitaires, sa capacité persuasive. Et il est vrai que l'idéologie marxiste-léniniste, telle qu'elle a été utilisée par la classe au pouvoir pour s'y maintenir, avait malgré ses nombreuses faiblesses de multiples atouts. le plus évident d'entre eux est la comparaison avec le pouvoir politique précédent. Le régime tsariste, profondément inégalitaire, avait en effet un bilan particulièrement faible en termes de développement économique, social, sanitaire et éducatif de la Russie. Reposant sur une classe nobiliaire et une classe cléricale directement issues du régime trifonctionnel ancien, le pouvoir tsariste avait aboli le servage en 1861, quelques décennies seulement avant la révolution de 1917. Au début des années 1860, les serfs représentaient encore près de 40% de la population russe. Le pouvoir impérial avait prévu en 1861 que les ex-serfs acquittent jusqu'en 1910 des paiements à leurs ex-propriétaires. Le mécanisme était assez proche en esprit des compensations financières aux propriétaires d'esclaves instituées lors des abolitions de l'esclavage décidées au Royaume-Uni en 1833 et en France en 1848, à la différence près que les serfs vivaient au cœur du territoire russe et non dans des îles esclavagistes. La plupart des paiements prirent fin dans les années 1880, mais cela permet de remettre le régime tsariste et la rupture de 1917 en perspective, et plus généralement, de rappeler les formes extrêmes de sacralisation de la propriété privée et des droits des propriétaires, quelle que soit la nature et l'origine de la propriété en question, qui caractérisait le monde d'avant la Première Guerre mondiale. Par comparaison avec le pouvoir tsariste, le régime soviétique n'eut pas de mal à apparaître comme porteur d'un projet autrement plus prometteur pour le pays, à la fois égalitaire et modernisateur. De fait, en dépit des répressions et de la vision hyper-étatique et ultra-centralisée du régime de propriété et de l'organisation sociale et économique, il est clair que les investissements publics réalisés au cours de la période 1920-1950 ont permis de moderniser profondément le pays et de favoriser un début de rattrapage sur les pays ouest européens. C'est notamment le cas en matière d'infrastructures, de moyens de transport et surtout d'alphabétisation et plus généralement d'investissements éducatifs, scientifiques et sanitaires. Les sources disponibles permettent ainsi de constater que la concentration des revenus et des ressources économiques a été fortement réduite au cours des premières décennies du pouvoir soviétique par comparaison avec le régime tsariste, le tout dans un contexte d'amélioration relative des conditions de vie et des revenus par comparaison avec l'Europe de l'Ouest, tout du moins jusqu'aux années 1950. S'agissant des inégalités de revenus, des travaux récents ont par exemple permis de montrer que la part du décile supérieur se situait pendant toute la période soviétique, des années 1920 aux années 1980, à un niveau relativement faible, autour de 25% du revenu total, contre environ 45-50% sous le tsarisme. Voir graphique 12.1. On retrouve les mêmes pourcentages élevés après la chute du communisme. La part du centile supérieur a pour sa part été abaissée à environ 5% du revenu total à l'époque soviétique, contre 15-20% avant 1917. Voir graphique 12.2. Il faut toutefois insister sur les limites de telles estimations. Les données monétaires disponibles ont certes été corrigées afin de prendre en compte les avantages en nature, accès facilité à des magasins, centres de vacances, etc., dont bénéficiaient les classes privilégiées du régime soviétique. Mais de telles corrections ne peuvent par définition qu'être relativement approximatives. Au final, ces données sur les inégalités de revenus sous la période soviétique démontrent surtout que le régime communiste ne structurait pas ces inégalités par la voie monétaire. Outre que les revenus de la propriété, qui dans les autres sociétés forment une part essentielle des plus hauts revenus, avaient entièrement disparu, on constate que les hiérarchies sociales, séparant l'ouvrier de l'ingénieur et du ministre soviétique, étaient relativement comprimées, sans pour autant être totalement aplaties. Concrètement, une part de 4-5% pour le centile supérieur signifie que les 1% les mieux rémunérés ont un revenu moyen qui est de 4 à 5 fois plus élevé que le revenu moyen, et généralement autour de 8 à 10 fois plus élevé que les plus bas salaires, qui sont généralement proches de la moitié du revenu moyen. Il s'agit là d'une caractéristique proprement existentielle du nouveau régime, qui aurait perdu immédiatement toute cohérence idéologique interne et toute légitimité s'il s'était mis à verser subitement à ses dirigeants des salaires ou des bonus monétaires 100 fois plus élevés que les salaires ouvriers. Mais cela ne doit pas éclipser le fait que le régime structurait ses inégalités par d'autres canaux, comme les avantages en nature et les accès privilégiés à certains biens, difficiles à prendre en compte complètement, ainsi que par de violentes disparités statutaires dont l'emprisonnement de masse est la forme la plus extrême, mais qui comprenait également un système sophistiqué de passeport intérieur. Ce système visait à la fois à freiner les possibilités de migration des campagnes, particulièrement malmenées pendant la collectivisation de l'agriculture et l'industrialisation à marche forcée, vers les villes, à mettre à l'écart certaines populations suspectes ou condamnées, et à réguler les mobilités entre centres urbains et bassins d'emploi en fonction des besoins perçus de la planification et de l'avancée des constructions de logements. Il serait illusoire de chercher à intégrer tous ces aspects dans un unique indicateur inégalitaire quantitatif d'inspiration monétaire. Il me paraît plus pertinent d'indiquer ce que l'on sait des inégalités monétaires, tout en insistant sur le fait qu'il ne s'agit que de l'une des dimensions, et pas forcément la plus marquante, permettant de caractériser le régime inégalitaire soviétique, comme d'ailleurs les autres régimes inégalitaires dans l'histoire. Concernant l'évolution du niveau de vie moyen à l'époque soviétique, il faut là aussi insister sur la fragilité des matériaux et des sources. D'après les meilleures estimations disponibles, le niveau de vie moyen, tel que mesuré par le revenu national par habitant, a stagné des années 1870 aux années 1910 en Russie aux alentours de 35-40% du niveau ouest-européen, défini par la moyenne du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, avant de s'élever graduellement au cours de la période 1920-1950 et d'atteindre environ 60% du niveau ouest-européen dans les années 1950. Voir graphique 12.3. La précision de ces comparaisons ne doit pas faire illusion, mais les ordres de grandeur peuvent être considérés comme significatifs. Il ne fait aucun doute que la Russie a connu un début de rattrapage économique sur l'Europe de l'Ouest à la suite de la révolution de 1917, de la fin des années 1910 jusqu'aux années 1950. Ce rattrapage était certes dû en partie au fait que le point de départ était particulièrement bas. Il a également été rendu plus visible par les contre-performances économiques des pays capitalistes, en particulier pendant les années 1930, quand la production s'effondrait en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, alors que la planification soviétique tournait à plein régime. Il reste que pour ces différentes raisons, structurelles et conjoncturelles, le bilan économique du régime soviétique pouvait apparaître comme globalement très positif dans les années 1950. Au cours des quatre décennies suivantes, entre 1950 et 1990, on assiste cependant à une stagnation du revenu national moyen russe autour de 60% du niveau ouest européen. Il s'agit clairement d'une contre-performance, surtout compte tenu de la forte progression des niveaux d'éducation observés au cours de cette période en Russie, comme d'ailleurs en Europe de l'Est, ce qui aurait normalement dû conduire à une poursuite du processus de rattrapage et à une convergence graduelle avec l'Europe de l'Ouest. C'est donc bien l'organisation du système productif qui est en cause. Les frustrations sont d'autant plus fortes que les performances scientifiques, technologiques et industrielles des régimes communistes avaient été amplement vantées et valorisées dans les années 1950 et 1960, aussi bien d'ailleurs à l'intérieur et à l'extérieur, où l'on annonçait régulièrement le triomphe productif du communisme. En 1970, dans la 8e édition de son célèbre manuel, utilisé par des générations d'étudiants nord-américains, Paul Samuelson prédisait toujours, sur la base des tendances observées des années 1920 aux années 1960, un possible dépassement du PIB états-unien par le PIB soviétique entre 1990 et 2000. Pourtant, dans le courant des années 1970, il devient de plus en plus clair que le processus de rattrapage s'est enrayé et que le niveau de vie russe stagne relativement au salaire des pays capitalistes. Il est en outre possible que ces comparaisons sous-estiment l'écart réel de niveau de vie entre l'Est et l'Ouest, surtout en fin de période. en particulier si la faible qualité des biens de consommation disponibles dans les pays communistes, équipements ménagers, voitures, etc., est en principe prise en compte dans les indices de prix utilisés pour faire ces comparaisons. Il est fort possible que ce facteur ait gagné en importance au cours du temps et soit particulièrement sous-évalué à partir des années 1960 et 1970. Le poids hypertrophié du secteur militaire en Union soviétique, qui pendant la guerre froide représentait jusqu'à 20% du produit intérieur brut en URSS contre 5%, 7% aux États-Unis, complique en outre un peu plus ces comparaisons. La concentration des investissements matériels et des ressources intellectuelles dans les secteurs stratégiques a certes permis des succès spectaculaires, à commencer par l'envoi dans l'espace de Sputnik 1 en octobre 1957 aux grandes dames des États-Unis. Mais cela ne suffit plus à masquer la médiocrité des conditions ordinaires d'existence et le retard sur ce terrain avec les pays capitalistes, de plus en plus criants dans les années 1970 et 1980.